Et puis au bout d'un moment, on se rend compte qu'en fait, c'est une suite d'une nouvelle de Lovecraft, intitulée Celui qui chuchotait dans les ténèbres. Donc encore une fois, ce n'est pas la première fois ni la dernière qu'on va vous parler de Lovecraft ici, parce qu'il a influencé tellement de monde. Donc ce bouquin, Kathleen R. Kiernan, Les agents de Dreamland, si vous voulez du néo-Lovecraft, superbement écrit et un roman court mais un peu puzzle, super intriguant, on vous conseille Les agents de Dreamland. On se revoit dans 15 jours pour parler d'autre chose, j'espère. Voilà, bisous. Vous dites bisous pendant que je mets le morceau.
Bisous.
Bisous.
Bonsoir, chers auditeurs, c'est Radio Libertaire 89.4 et DA+, c'est Yves au micro et c'est une émission enregistrée. Cette émission, c'est GMC+, Gabriel, Maurice, Claude et les autres. Si vous avez écouté la semaine dernière, lundi dernier pour être précis, l'émission Trou Noir, vous avez eu les présentations de trois émissions, dont la mienne, où j'explique un petit peu le contexte de cette nouvelle émission. Nous en sommes donc au troisième volet, et ce soir, ce sera une émission consacrée à Claude Debussy, Exactement le travail piano, le travail du piano, de quelques œuvres pour piano, parce que Debussy en a fait beaucoup. Et j'ai choisi spécifiquement un opus très particulier, puisqu'il s'agit du livre 2 des études pour piano, et surtout, alors là, il faudra que je dise un mot également, il s'agit du deuxième livre des préludes de Debussy, joué par le pianiste russe Sviatoslav Richter. Voilà. Donc, c'est une émission enregistrée, il n'y a pas de possibilité de téléphoner. Nonobstant, vous avez la possibilité de réécouter l'émission pendant 12 mois à partir de la fin de la diffusion en podcast. Vous allez sur la page de la radio, radiolibertaire.net ou or, je ne sais plus, mais vous faites Radio Libertaire. Vous avez l'agenda, vous avez l'ensemble des programmes, des émissions. N'oubliez pas de télécharger la souscription. Nous avons besoin de votre aide pour maintenir le matériel. Comme vous le savez, ça s'use. Voilà, donc, vous avez ma page Facebook Yves Jazzly, puisque nous avons les deux émissions, et la page GMC également, sur laquelle je mets toujours les informations, la playlist, etc., etc. Si vous avez besoin d'enseignements, vous vous souvenez, c'est dk51@sfr.fr. Je crois vous avoir tout dit pour l'instant. Nous allons donc démarrer le début de Claude Debussy, dans le sens où il y aura certainement beaucoup de choses à dire sur les œuvres orchestrales, etc., etc. Et donc nous n'avons pas fini d'explorer toute cette période extrêmement importante. Je vous rappelle que l'émission commence à 20h30, non pas 19h30 comme pour Jazz Libre, et c'est le deuxième jeudi du mois, ce qui fait que nous nous retrouvons trois fois par mois, le premier, deuxième et troisième jeudi. Voilà. Alors je vais aussi en profiter pour vous donner quelques informations sur le générique, parce que en général personne ne le fait, mais moi il me semblait important de le faire. Il s'agit du piano quintet, c'est un quintet agrémenté d'un piano, numéro 1 de Gabriel Fauré, qui est en ré mineur, opus 89, dit Allegretto Moderato. Voilà. Alors, lorsque j'ai commencé à présenter et à réfléchir sur cette émission, c'était également pour mettre en lumière le fait qu'il y avait des correspondances entre le jazz et ses musiciens. Beaucoup de jazzmen se sont évidemment beaucoup inspirés de Debussy, de Ravel, Fauré, etc., etc. Et évidemment, beaucoup de compositeurs de films. Mais si vous écoutez attentivement ce piano pour quintet numéro 1, eh bien, ça n'est peut-être pas sans vous rappeler le titre que chantait Frank Sinatra, Fly Me to the Moon. Donc je suppose que les compositeurs ont dû parcourir les partitions de ces musiciens pendant de nombreux moments et ont puisé dedans une incommensurable source d'inspiration. Voilà, donc je pense que c'est quelque chose qui, moi, m'y fait penser. Je ne sais pas si c'est le cas, en tout cas. Ça y ressemble beaucoup. Et on va avoir un nombre incalculable d'exemples de ce type tout au long de l'histoire du jazz et de cette musique. Alors, dernier point, avant de vous parler de Debussy et de sa vie, enfin, de commencer à en parler, quelques mots sur le pianiste que je vous ai choisi ce soir sur les préludes, le deuxième livre des préludes. J'ai choisi Sviatoslav Richter parce que c'est un de mes pianistes classiques préférés, quelqu'un qui n'a pas été forcément compris tout de suite au début. Il était né en mars 1915, et il est mort en août 97. Voilà, donc c'est un pianiste russe qui a fait une vie très spéciale, qui donnait peu d'interviews, qui était très sombre et assez fermé par rapport au public. Mais vers la fin de sa vie, il avait un peu plus de facilité à jouer. Et notamment, il a été l'initiateur, à partir de 1963, d'un festival à côté de la ville de Tours qui s'appelait La Grange de Mellet, et qui était un récital annuel jusqu'à quasiment sa mort. Juste comme une petite précision, c'est qu'il avait quelque chose d'important sur les prestations qu'il faisait en public, c'est qu'il voulait qu'il y ait une toute petite lumière sur le piano, de façon à ce que les gens puissent focaliser sur la musique et pas sur la gestuelle de certains musiciens. Je pense évidemment à Keith Jarrett dans le jazz, mais beaucoup d'autres. Non, là, c'était vraiment complètement l'inverse. Il voulait vraiment qu'on écoute la musique. Voilà, c'est un pianiste pour moi absolument extraordinaire, y compris même sur des choses où on n'avait pas forcément l'habitude de l'écouter, notamment sur le clavier tempéré de Bach, qui est absolument génial. Voilà, je pense vous avoir dit le principal, et puis bon, de toute façon, vous pouvez avoir toutes les informations maintenant en vente libre sur la toile. Voilà, pour ce qui est de Richter. Oui, alors si, j'ai oublié deux choses. Il existe un document cinématographique qui a été fait par Bruno Mont-Saint-Jean. C'est très rare puisqu'il refusait toute forme d'interview la plupart du temps, préservant sa vie privée. Et dernier point aussi, dans les trucs qu'il avait, c'est qu'il se mettait au piano et il comptait intérieurement jusqu'à 10 avant de pouvoir mettre ses mains sur le clavier, ce qui donnait encore une dramaturgie particulière à l'introduction de la musique. Voilà, c'était des petits trucs comme ça qu'il faisait et qui donnaient d'une personnalité assez particulière. Bien, donc maintenant nous allons commencer à parler un petit peu de Debussy. Donc il est né à Saint-Germain-en-Laye le 22 août 1862, et il est mort le 25 mars 1918 à Paris, dans le 16e arrondissement. Alors, on a souvent classé Debussy comme étant impressionniste, mais lui refusait complètement cette appellation. Il refusait d'être appelé symboliste, il refusait d'être appelé impressionniste. Voilà. Il voulait en fait ne ressembler, non pas ressembler à rien, mais à rien de connu et à rien qui pouvait faire référence à autre chose que sa propre musique. C'était quelqu'un qui était très, comment dire, je pense tout à fait conscient qu'il avait quelque chose à jouer, dans le vrai sens du terme, en termes de composition. D'ailleurs, après sa mort, je ne sais plus qui a dit, peut-être son ancienne maîtresse, qu'il n'avait jamais vraiment aimé personne d'autre que sa musique et lui-même. Voilà. Alors, on va commencer très vite par écouter tout de suite deux préludes du deuxième livre, enchaînés coup sur coup. Et vous allez voir que même dans l'appellation des titres, il y a quand même quelque chose qui donne à penser à des images, en tout cas. Le premier s'appelle Brouillard, et le sous-titre, ça est noté modéré, extrêmement égal et léger. Et les deuxièmes s'appellent Feuilles mortes, lent et mélancolique. Donc nous allons enchaîner ces deux titres dans un premier temps, et ensuite je vous donnerai d'autres indications sur Debussy, qui a eu vraiment beaucoup de choses à dire, et notamment sa relation avec les femmes, qui n'étaient pas forcément des plus glorieuses, mais bon, voilà, ça fait partie des choses qui sont comme ça. Thank you. Vous êtes sur GMC+, Gabriel, Maurice, Claude et les autres, sur Radio Libertaire 89.4 et DAB+, maintenant, pour si vous êtes équipé. En région parisienne, hein, évidemment. Alors, les parents de Debussy s'appellent Manuel Achille, qui est un ancien militaire, et Victorine Manori, qui sont marchands de poterie et céramique, voilà. Et donc, c'est une famille, il y a quatre enfants, dont une mourra de méningite un peu plus tard. Alors, ils vont s'installer à un moment, en 1870, Claude Debussy part avec sa mère qui est enceinte, et donc à Cannes, c'est là qu'il va avoir un premier contact avec la musique. Il faut savoir que la guerre de 1870 arrive le 16 février, et donc son père reste à Paris, mais il travaille dans une imprimerie et il est licencié le 15 novembre et il se retrouve sans emploi, et en fait il va se retrouver, le père de Debussy, à prendre un poste au service des vivres de la mairie du 1er arrondissement, qui sera un des futurs foyers de la commune. Alors, quand même quelques mots sur les préludes que nous venons d'écouter, on voit quand même qu'il y a quelque chose qui est quand même extrêmement moderne. On est complètement dans une sorte de polytonalité harmonique, hein, quelque chose qui est toujours en développement. On ne revient jamais sur une formule exposé du thème, expansion ou développement du thème, et puis retour au thème. Non, là, on est complètement dans une évolution, ce que fera Ravel également beaucoup plus tard. Et donc, dans les feuilles mortes, c'est pareil, il y a une tonalité qui n'est jamais vraiment complètement identifiée. Enfin, je vous passe les détails purement harmonique, mais et pareil sur le rythme qui est à la fois ternaire et binaire, des mesures qui sont interrompues avec des syncopes et des figures plutôt irrégulières, ce qui fait que ça, on change vraiment de choses comme ça. Alors aussi, l'enregistrement a été fait en public, ce qui explique la qualité relativement médiocre de l'enregistrement, mais alors le livre 1, c'est encore pire. Il date il est antérieur à celui-ci, et vraiment, si j'ai le temps, j'essaierai de vous en passer un extrait, mais la qualité est vraiment assez médiocre, et à mon avis, il ne vaut pas le coup. Là, ça va encore, on est quand même des choses relativement acceptables. Alors donc, Debussy, c'est sa tante Clémentine qui a plus ou moins décelé chez lui des dispositions musicales. Alors, et c'est elle qui lui aurait déniché son premier professeur de piano, un obscur violoniste italien qui habitait à Cannes, et il s'appelait Jean Cerutti. Voilà. Alors, ce qui est aussi important, c'est qu'à Paris, la commune éclate, hein, évidemment. Nous, à Radio Liberté, on connaît ça. Et donc, son père s'engage dans la garde nationale, où il est promu, et après maintes péripéties, il se retrouve capitaine à la tête d'un bataillon, et puis il est arrêté, libéré deux jours plus tard, et de nouveau emprisonné le 22 mai par les troupes de MacMahon. Voilà, en fait, il est interné avec d'autres communards au camp de Satory, il subit plusieurs interrogatoires, il est suivi d'un procès, le conseil de guerre est sans appel, il lui donne 4 ans de prison, et après une année d'incarcération, la peine est commuée en 4 ans de suspension des droits civiques et familiaux. Voilà, le reste de la famille, quant à elle, est restée à Cannes pendant ces événements. Et donc, elle va rentrer, Victorine Debussy, donc sa mère, va rentrer à Paris avec ses 4 enfants, et ils vont louer un petit 2 pièces rue Pigalle. Alors, le père donc de Debussy, en prison, il rencontre des communards, dont un prisonnier qui s'appelle Charles de Civry, qui est musicien autodidacte et qui était notamment chef d'orchestre, et il était le beau-frère de Paul Verlaine. Alors les deux hommes se lient d'amitié et échangent leurs soucis. Et le père de Debussy, sans doute, touche quelques mots à Civry sur son fils et ses facilités musicales, Ce qui fait que Sivry propose de confier Debussy enfant à sa maman, Madame Antoinette Flore, Motet de Floreville. Cette dernière avait à l'époque 48 ans et qui était elle-même excellente pianiste. Elle avait même reçu des leçons de Frédéric Chopin. Claude Debussy devient donc l'élève de Madame Motet, mais on ne sait pas si ses cours débutèrent avant ou après la libération de Sivry du camp de Satory, où il était emprisonné, qui fut libéré, lui, relativement rapidement, parce qu'il a bénéficié d'un non-lieu. Voilà. Il est à noter que la fille de Madame Motet, Mathilde, est l'épouse de Paul Verlaine, avec qui elle s'installe rue Nicolet, aux côtés des Moutets, non loin de la rue Pigalle, où logent les Debussy. Visiblement, les leçons de Madame Motet ont été d'une bonne qualité, parce qu'après une année, Claude Debussy, qui a 10 ans, envisage, enfin en tout cas peut envisager de rentrer au Conservatoire de Paris, lui qui fréquentait aucune école, contrairement à ses frères et sœurs, puisqu'il a appris à lire et à écrire et à compter par sa mère. Voilà, donc Madame Motet l'encourage dans cette voie et puis conseille à ses parents de lui faire tenter le concours d'entrée. Alors pour ça, il faut une relation pouvant s'appuyer sur sa candidature. Le père, Manuel Achille, donc père de Debussy, parvient à joindre le compositeur Félicien David, membre des comités d'examen de chant, d'orgue et de déclamation lyrique. Il accepte de parrainer le jeune Debussy et envoie le billet suivant au secrétaire du conservatoire, Émile Réty. « Cher monsieur Réty, je vous adresse un enfant que son père désirerait faire entrer dans une classe de piano. L'enfant a un bon commencement. Voyez par vous-même, si vous pouvez l'admettre, vous me feriez plaisir, bien à vous, Félicien David. » Alors nous allons maintenant écouter deux autres préludes. Le premier s'appelle « La Puerta del Vino », qui est un mouvement de habanera avec de brusques oppositions d'extrême violence et de passionnée douceur. Voilà, ça, ce sont les sous-titres des indications qui sont assez humoristiques et en même temps qui donnent tout de suite pour l'interprète ce qu'il doit respecter d'une certaine manière. C'est vraiment déjà des directives tout à fait intéressantes. Et le deuxième que nous allons écouter s'appelle « Les fées sont d'exquises danseuses ». Rapide et léger. Ce que je voulais vous dire à propos du deuxième prélude, lorsque vous allez réécouter l'émission, le premier et le deuxième sont enchaînés. Et à ce titre, on a l'impression vraiment d'une continuité sans rupture. C'est même assez surprenant. Mais dans le deuxième, il y a des choses qui, moi, me rappellent Duke Ellington, et plus précisément même Charlie Mingus rendant hommage à Duke Ellington dans le magnifique Duke Ellington Sound of Love. Alors, je ne sais pas si Mingus avait écouté Debussy, ou certainement, je pense que tous l'ont fait, Miles Davis, le premier à l'avoir plus ou moins... dit, c'est le trompettiste Bix Beiderbecke qui est parti vraiment très très vite à partir des années 20 vers quelque chose d'un peu différent, d'un peu ailleurs, et justement il était très très inspiré par Claude Debussy, et d'ailleurs il y a une composition de Bix Beiderbecke qui s'appelle In the Mist, c'est dans le brouillard, et on est très proche de cette idée, puisque Claude Debussy est mort en 1918, donc il a eu connaissance du jazz et le jazz a eu connaissance de Debussy. Voilà. Donc, je ne sais pas lui-même si, dans la biographie de Duke Ellington, dans son autobiographie même, il n'en parle pas. Bon, il dit simplement qu'il y a la bonne et la mauvaise musique, point barre. Mais voilà, je pense qu'il y a une véritable interaction, parce que beaucoup de choses harmoniques de ces musiciens, de Forêt, de Debussy, évidemment de Maurice Ravel, ont été très très empruntés par les jazzmen sans qu'ils s'en défendent en plus. C'était vraiment quelque chose qui, avec une manière évidemment de travailler le tempo très très différente, mais au niveau de l'harmonie, il y a des choses qui sont très très proches et qui ont une connexion absolument claire, nette et précise. Donc, nous allons écouter les deux préludes que je vous ai indiqués. Voilà, excusez-moi, je reprends mes notes. La Puerta del Vino et Les fées sont d'exquises danseuses. « C'est GMC+, vous êtes sur Radio Libertaire 89.4. Donc, Claude Debussy est reçu au Conservatoire le 22 octobre 1872. Il y a 157 candidats et 33 seulement ont été retenus. Tout le monde dit que Claude Debussy était un élève dissipé, qu'il arrivait en retard souvent, qu'il était la cible de sa mère qui n'était pas contente après lui et très sévère sur ce point de vue. Mais bon, ça changeait pas grand-chose. Debussy, en fait, était vu par ses professeurs comme un enfant intelligent, plutôt talentueux. Et d'ailleurs, en janvier 1873, Debussy joue une toccata de Bach. Et Alphonse Duvernoy écrira « Joli son ». Voilà. Donc, il dit aussi « Charmant enfant, véritable tempérament d'artiste, deviendra musicien distingué, beaucoup d'avenir ». Voilà. En revanche, dans la classe de Lavignac, Debussy a été jugé très très en retard sur la théorie. Enfin, il y a toujours eu beaucoup de complications avec l'enseignement et Debussy, hein, je pense que voilà. Mais bon, il va s'améliorer et en 1874, Marmontel dira très bien lecture, dictée et théorie. Voilà. Donc, tout baigne hein, pour l'instant. Les progrès, aussi bien en piano qu'en théorie, l'amènent tout naturellement à concourir. Il obtient un deuxième accessit au piano après l'interprétation du concerto numéro 2 en fa mineur de Chopin et la troisième médaille de solfège. Alors les parents qui étaient là, ils étaient très très fiers de lui, et d'autant que son père était sorti de prison depuis presque 2 ans et il avait trouvé un emploi comme auxiliaire aux écritures à la compagnie Fives Lille, qui existe toujours, qui était une compagnie de fonderie métallique qui existe toujours, voilà. En 1975, Debussy, il a 13 ans, et c'est le plus jeune élève de la classe de Lavignac qui était satisfait de lui, mais qui émettait quelques réserves sur les principes théoriques. En piano, Marmontel, donc son prof, était plutôt enthousiaste au sujet de son élève. Voilà. Alors, il y a des nouvelles épreuves, et Debussy, ce coup-ci, il obtient la deuxième médaille en solfège. Et en piano, il va partager les premiers accessits avec 2 autres candidats. Il n'y a pas eu de premier prix, mais 2 seconds. Voilà. L'épreuve à l'époque comportait en tout 14 candidats et comportait notamment la première ballade de Chopin. Un critique de la revue L'Art Musical, présent ce jour-là, écrivit sur Debussy qu'il était un enfant de 12 ans et virtuose de premier ordre dans l'avenir. D'ailleurs, et là c'est important de le souligner, Eric Satie disait « Personne n'a jamais mieux joué Chopin que Debussy ». Cependant, en 1876, ce fut une année pour Debussy qui, d'un point de vue scolaire, ne tint pas ses promesses. Voilà, alors on a mis ça un peu sur le compte de l'adolescence, bon voilà, mais ce qui n'empêcha pas Marmontel d'envoyer Debussy comme accompagnateur d'un élève du classe de chant Léontine Mendès en province, bon voilà. Et puis il va comme ça accompagner un certain nombre de formations comme des trios pour piano, violon, violoncelle, sur des œuvres de Haydn, d'Offenbach, etc., etc. Alors il fait une prestation remarquée à un concert en province, la Chauny, organisé par la musique municipale du coin. Et les professeurs de conservatoire se montraient moins enthousiastes. Il dit « ne tient pas du tout ce que j'espérais, étourdi, inexact, il pourrait faire beaucoup mieux ». Lavignac, lui, est un peu plus gentil, il dit « parfait pour la lecture et la dictée, encore étourdi pour la théorie, bien qu'il la comprenne fort bien ». Voilà. Comme un fait exprès, ces deux tendances en fait se sont vérifiées dans leurs épreuves respectives, c'est-à-dire en solfège, ça a été la consécration, il a obtenu la première médaille avec 2 autres candidats, mais en piano, aucune récompense. Bon, alors il faut dire quand même que l'œuvre imposée n'aidait pas vraiment, c'était l'Allegro opus 111 de Beethoven, qu'un critique d'art musical commente comme morceau très sévère et absolument dénué de toute espèce de charme. Ceci explique que Debussy ait gardé ses distances avec l'œuvre de Beethoven à partir de ce moment-là. Mais dans le jury, on peut noter quand même la présence entre autres de Saint-Saëns et Massenet. Camille Saint-Saëns et Jules Massenet. Hein. Voilà. En ce qui concerne la technique pianistique de Debussy, ses camarades l'ont toujours considéré comme peu académique. Comme le dit Gabriel Pierné, qui était un de ses camarades de classe, il nous étonnait par son jeu bizarre, maladresse naturelle ou timidité, je ne sais pas, mais il fonçait littéralement sur le clavier et forçait tous les effets. Il semblait pris de rage contre l'instrument, le brusquant avec des gestes impulsifs, soufflant bruyamment et exécutant des traits difficiles. Alors, c'est une opinion qui, elle, contraste avec celle d'un de ses profs, qui disait, hormis le joli son par Duvernois, il disait « Jeu intelligent, en nuançant toutefois, joue trop vite, se presse trop ». Voilà, néanmoins, Pierney reconnaît que ses défauts allaient s'atténuer et il obtenait par moments des effets de douceur moelleuse étonnante. Alors c'est quand même des attributs qu'on retrouve dans les préludes, dans les sous-titres des préludes, hein, c'est assez rigolo. Voilà, l'année 76 à 77 est beaucoup plus encourageante que la précédente. Sur le plan scolaire, Marmontel trouve que Debussy a renoncé à son étourderie et a repris goût au travail, ce que ses parents prennent comme un soulagement, d'autant qu'eux, ils sont sous le coup de la perte de leur dernier enfant, Eugène, qui est né en 73 et qui est mort en 77 d'une méningite. Alors voilà, c'est une maladie qui avait cours à l'époque. Au concours de cette année, en 76-17, est organisé à huis clos, on retrouve des premiers mouvements de la sonate en sol mineur de Schumann que 21 candidats furent tenus d'exécuter. Debussy s'en sort donc avec le second prix, ce qui est une réussite. Il n'y a eu que deux seconds prix et trois premiers, dont l'un alla à José Jiménez, un gars de Trinidad qui n'a pas laissé grande mémoire. Et donc, durant l'année 77-78, Debussy, qui a 16 ans, fait son entrée dans la classe d'harmonie d'Émile Durand. Et donc, nous allons continuer à écouter quelques préludes. J'espère pouvoir vous passer la totalité, parce que je suis très bavard sur la vie de Claude Debussy, qui est très animé. Nous allons écouter Bruyère, dont le sous-titre est calme, doucement expressif, et le général Lavine, qui est sous-titré excentrique, dont le style est le mouvement d'un cakewalk. Alors, le cakewalk, à l'époque, c'est donc une danse un peu rythmée qu'on pourrait apparenter à ce qu'il y a de l'autre côté de l'Atlantique comme étant du ragtime, quelque chose qui pourrait se rapprocher très précisément, mais en tout cas, on sent qu'il y a quelque chose qui en est pas loin. Encore deux petites précisions. La première, c'est que ces préludes ont été composés respectivement en 1910 et 1913, et que les dernières pièces ont dû être composées, pardon, en 1915. Alors, à propos du cakewalk, le général Lavine, en fait, il s'agit d'une évocation du clown Edward, avec un W, Lavine, qui est un comique qui est apparu, qui a donné ses prestations au Théâtre Marigny des Champs-Élysées à Paris en 1910 et qui a dû laisser une impression assez forte dans l'esprit de Debussy. Thank you. êtes bien sur Radio Libertaire et c'est GMC+, l'émission consacrée à Gabriel Maurice Claude et les autres, consacrée aux compositeurs du 19e et 20e français, mais pas que, et notamment ce soir Debussy. Alors quelques mots sur les deux morceaux qu'on vient d'écouter. Le premier, évidemment, qui s'appelle « Les Bruyères », et très très travailler sur la pentatonique. Alors ça, c'est vraiment des choses qu'on retrouve dans le jazz très 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 souvent, qui est quand même lié typiquement au blues. Donc là vraiment on a quelque chose d'un petit peu nouveau qui fait vraiment une rupture avec avec la composition classique. Et le cakewalk, donc là, qui évidemment est quelque chose d'un petit peu différent dans la manière d'approcher le rythme qu'on pouvait avoir en général dans la composition classique. Pour revenir au premier, Les Bruyères, il y a dedans quelque chose qui peut évoquer la musique de Star Wars. Alors, vous savez, Star Wars, c'est John Williams qui lui-même a été accusé de plagiat. En disant que ça avait été inspiré d'un autre compositeur de musique de film, Korngold, dans le film King's Row, mais également de Manon Lescaut, de Giacomo Puccini. Alors, est-ce que les uns se sont inspirés des autres? Est-ce que c'est une rencontre? Est-ce que c'est fortuite? Ça ne l'est pas. Ça restera un mystère, tout comme reste, à mon avis, très mystérieux la musique de Debussy, qui finalement devient de fait assez inclassable, y compris dans l'esprit, je crois qu'il voulait lui-même ne pas définir sa musique, justement, il refusait tous les adjectifs de l'époque. Alors évidemment, on a dit impressionniste parce que ça tombait en même temps que le mouvement pictural du même nom, mais lui, il se refusait de rentrer dans ce genre de choses. Et d'ailleurs, c'est assez rigolo parce qu'il va rentrer dans la classe d'harmonie, puis il dit que l'harmonie, ça lui plaît pas du tout, et il dit la chose suivante, il dit « Je vous assure que dans la classe d'harmonie, je ne faisais pas grand-chose, et l'étude de l'harmonie telle qu'on la pratique à l'école est bien la façon la plus solennellement ridicule d'assembler les sons. Elle a de plus le grave défaut d'unifier l'écriture à un tel point que tous les musiciens, à quelques exceptions près, harmonisent de la même manière. » Et bien ça, c'est quelque chose d'assez prémonitoire que moi, je peux reprocher également à beaucoup de musiciens de jazz de maintenant, c'est d'avoir un côté un petit peu uniforme, justement, de ce qui existe. Alors, Paul Vidal qui dit... aussi à propos de je passe assez vite ces réalisations harmoniques, il disait que au lieu de trouver des réalisations harmoniques attendues du professeur, il dépassait toujours le but, inventait des solutions ingénieuses, élégantes, charmantes, mais nullement scolaires. Et Émile Durand, qui était un bon professeur mais dépourvu de souplesse, lui en faisait âprement le reproche. Alors, ce qui correspond au souvenir de Raymond Bonheur, qui dit qu'il s'agisse d'un chant ou d'une basse donnée, il était rare qu'il en apportât une réalisation ingénieuse et n'en relevât l'ordinaire banalité d'une harmonie subtile et inattendue. Voilà, donc ça va pas vraiment lui réussir, puisque il va en 1878-19 partir sans aucun prix. Il va considérer que c'est les pires années passées au conservatoire, malgré les notes positives de son prof Marmontel. Alors je passe parce qu'il y a pas mal de choses, mais il va rencontrer à un moment donné une dame qui s'appelle Nadejda von Meck, et qui va lui ouvrir non seulement ses portes, mais également le faire voyager, puisque elle va l'emmener un peu partout en Europe, et elle va se le prendre à ses côtés pour ses soirées de salon. Donc Debussy va d'échec en échec, comme je le disais, et donc pour un peu faire passer la pilule, Marmontel va lui trouver une occupation. Et donc, il y a une dame russe qui va le chercher, qui cherche en fait au conservatoire un pianiste pour faire de la musique durant l'été. Et donc, c'est son prof qui va lui donner ce tuyau, hein, comme on dirait maintenant. Alors, c'est une veuve russe très riche qui a la cinquantaine, qui est mère de 5 garçons et 6 filles. Alors elle voyage beaucoup, elle a connu les Rubinstein, elle a connu Liszt, mais elle a aussi une amitié assez forte avec Tchaïkovski. C'est ce qui l'a d'ailleurs rendu célèbre. Et donc chaque été, elle fixait un lieu de résidence précis, et le 20 juillet 1880, il va à Interlaken, en Suisse, dans les montagnes. Et c'est là que Debussy, qui a 17 ans, la rejoint, elle et ses enfants. D'ailleurs, il va flasher sur une de ses filles, mais bon, ça se concrétisera jamais. Même s'ils se revoient très très longtemps plus tard, ça n'a jamais été fait. Et donc, en fait, il joue des transcriptions de Tchaïkovski pour piano à quatre mains. Et là-bas, la dame russe, cette Nadeïda Van Meck, trouve que Debussy a une brillante technique, mais qu'il est un petit peu dépourvu de sensibilité. Alors, ils continuent à voyager, ils vont s'installer à Arcachon, et puis, mais bon, au bout d'un moment, ça va un peu l'embêter, ils vont repartir comme ça pour dans d'autres lieux. Donc, la famille Van Meck se lasse d'Arcachon, comme je l'ai dit précédemment, et ils vont faire un très long périple. Ils vont passer à Paris, à Nice, à Gênes, à Naples, avec Debussy dans les bagages de tout le monde. Et ils s'arrêtent finalement le 19 septembre 1880 à Florence, à la Villa Oppenheim. Et c'est là que Debussy expose ses premières compositions, dont une danse bohémienne pour piano, que Nadeïda envoie à Tchaïkovski. Alors lui, il va répondre que c'est une composition de jeunesse, c'est une gentille chose, mais tellement courte, avec des thèmes qui n'aboutissent pas, et une forme chiffonnée qui manque d'unité. À Florence, Debussy compose également un trio en sol majeur, ainsi qu'une réduction pour piano à quatre mains des 3 danses du Lac des Cygnes, à la demande de Nadeïda. Cette réduction sera publiée par l'éditeur Jürgensen avec ses notes de Madame Van Meck à l'éditeur. Je vous demande de ne pas indiquer le nom de Monsieur Debussy en 2 mots, car si Jules Massenet en avait vent, mon jeune homme se ferait gronder. Donc elle avait une réelle affection pour Debussy. Et c'est en pleurant qu'il quitte les Van Meck, Debussy, surtout pour l'une de ses filles, Sonia, comme je disais, qu'il avait... sur lequel il avait flashé, mais qu'elle a refusé avec tact. Voilà. Donc nous allons maintenant écouter encore 2 autres préludes qui s'appellent La terrasse des audiences du clair de lune. Donc là, on va retrouver quelque chose de plus connu, qui est évidemment le clair de lune. Le sous-titre, c'est Lent, tout simplement, et ensuite Ondine, qui est sous-titré Scherzando. Thank you. Vous êtes sur GMC+, Radio Libertaire 89.4 et DAB+. Alors, quelques mots sur ce qu'on vient d'écouter. La terrasse des audiences au clair de lune est sans doute d'inspiration littéraire par un écrivain français qui s'appelait René Puau, tiré d'un roman qui s'appelle Le Beau Voyage, qui était censé décrire une cérémonie de couronnement du roi Georges V comme empereur de l'Inde. Ou peut-être une description des terrasses au clair de lune de l'Inde sous les Anglais de Pierre Loti. Voilà. Et donc, ça commence par des rythmes un peu de valse, mais puis après des choses un peu plus pianissimo. Alors, la seconde, Ondine, évidemment, est plutôt liée sur l'évocation de nymphes scandinaves ou de la tradition, de la danse traditionnelle allemande. Avec l'évocation des torrents, des lacs, et de l'eau transparente, des sources qui jaillissent, mais surtout avec beaucoup de polytonalité, pardon, et des choses qu'on va retrouver dans la musique modale, hein, puisqu'en fait, lui, il a été très très vite, lorsqu'il est parti en Extrême-Orient, intéressé par le gamelan de l'Indonésie et de toutes ces gammes très très particulières. Petite précision également, je ferai plusieurs émissions sur Debussy, donc peut-être que l'histoire, je vais être un peu bavard évidemment, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur l'histoire de Debussy, et j'y reviendrai de nombreuses fois, donc ce sera peut-être en deux parties, je ne sais pas si j'aurai le temps de terminer toute la biographie de Debussy, mais bon, après 1880, il va rentrer dans la classe d'Ernest Guiraud, on pensait qu'il aurait été chez Jules Massenet, mais non, bien qu'il mentionnait qu'il avait déjà été son élève, mais ce ne fut pas le cas. Alors, pour gagner un peu de quelques sous, il a 19 ans, il écrit un certain nombre de choses, et il va se faire embaucher comme accompagnateur pour le cours de chant de Marie Moreau-Sainty. C'est un poste qu'il va occuper pendant 4 ans, tous les mardis et vendredis à 15h, à la rue Taitbout, donc dans le 9e, et puis la rue Royale, à l'École internationale de musique. Les cours de Madame Moreau-Sainty, ils sont surtout fréquentés par des femmes du monde, et c'est là que Debussy va rencontrer une femme mariée de 32 ans, mère de deux enfants, Marie Vanier, s'écrit Vassnier. Et donc il a 19 ans et il tombe red dingue de cette femme mariée, il va lui écrire beaucoup de mélodies sur des poèmes de Théophile Gautier, le comte de Lille, Théodore de Banville. Autant de choses qui sont en fait des preuves d'amour pour elle. Et d'ailleurs, sur une des partitions, on peut trouver une dédicace à Madame Vanier, sans S. Ces mélodies conçues en quelque sorte par votre souvenir ne peuvent que vous appartenir comme vous appartient l'auteur. Voilà, bon, en même temps, tout ça lui enlève pas l'envie de se partir de Paris pour passer l'été un peu plus loin. Et donc, il confie l'élève qu'il a, plus les cours, et comme l'accompagnateur de chant ne fonctionne pas pendant l'été, il demande à Nadia von Meck s'il peut partir avec elle et sa petite famille. Et donc là, du coup, il part directement à Moscou. Et donc, il va découvrir pour la première fois la Russie. Il va y passer 2 mois et après, il va aller à Florence en passant par Vienne, Rome, Trieste et Venise, en voyageant luxueusement un peu, hein, comme dans les romans d'Agatha Christie. Voilà. Il va rentrer dans les premiers jours de décembre 81. Et voilà, rien de particulièrement notable, si ce n'est qu'il va composer un certain nombre de choses, comme une ouverture qui s'appelle Diane pour piano à 4 mains, une première œuvre de Nuit d'étoiles, voilà, qu'il va éditer chez un petit éditeur, ça va pas aller très très loin. Et puis il va partir à la Villa Médicis à Rome en 1885, et il va... malgré tout, échoué au cap éliminatoire du prix de Rome en 82. Il obtient le second prix avec sa cantate, le Gladiateur, en 83. Il n'est pas encore tout à fait en rupture d'académisme, mais il décroche le premier prix de Rome en 84 avec sa cantate, l'Enfant prodigue. Et voilà, conformément au règlement, il obtient une bourse de séjour de 3 ans à la Villa Médicis, et il part en janvier 85. Là, il découvre la musique de Palestrina, les splendeurs de l'Italie, ça je resterai d'accord avec lui, mais le bel canto, ça ne le branche pas, ben, moi non plus d'ailleurs. Il va rencontrer plusieurs musiciens importants de l'époque, dont Verdi et Liszt. Il va se lier d'amitié avec des compagnons de l'Académie de France à Rome, dont l'architecte Gaston Redon, le frère d'Odilon Redon, magnifique peintre, et un autre peintre, Marcel Bachet, qui va réaliser à cette occasion son portrait, comme c'était la tradition pour les pensionnaires de la Villa de Rome. Précédemment, j'ai oublié de vous dire qu'il va rentrer peu de temps, puisqu'il va rester quelques mois dans la classe d'orgue de César Franck, hein, puis vous connaissez évidemment la blague pourrie, il vaut mieux avoir l'âge de César Terre que l'âge de César Franck. Voilà, vous comprendrez pourquoi un jour. Voilà, donc en fait, à Rome, s'il s'ennuie un petit peu, finalement, ça ne plaît pas plus que ça, il a du mal à composer, donc ça ne va pas du tout. Et par exemple, les œuvres sont envoyées au conservatoire et furent jugées, notamment une pièce qui s'appelle Zuleima, comme étant bizarre, incompréhensible et impossible à exécuter. Voilà, à cette époque, il est encore sous l'influence de César Franck, et la quatrième pièce, Fantaisie pour piano et orchestre, fut retiré du catalogue par lui-même plus tard, pour dire. Nous allons donc écouter un hommage à SPQIC, alors SQPPMPC, sous-titré grave. Alors, cette espèce de petite nomenclature explique, en fait, c'est un hommage au personnage Pickwick, qui est le président directeur général du club Pickwick, dans une nouvelle de Dickens. Voilà. Et alors, vous allez tout de suite reconnaître, puisque ça commence par un God Save the Queen, l'hymne évidemment anglais, et puis après, il va complètement partir dans un autre délire, on va dire, et qui sont les vases de l'Égypte ancienne qui étaient en terre cuite, voilà, je vais y arriver, qu'on a retrouvé sur les bords du Nil. Et donc, qui sera évidemment, là encore une fois, une composition de type modal, avec des progressions et un caractère très récitatif. GNC+, Radio Libertaire 89.4 et DAB+. Alors nous allons écouter les deux dernières pièces du livre 2 des Préludes qui s'appelle Les tierces alternées, sous-titrées Modérément animées, et la dernière pièce Feu d'artifice, également modérément animée. Alors les tierces alternées, évidemment, c'est un titre qui décrit en fait le principe des tierces sur lesquelles il va évidemment travailler en majeur, mineur, augmenter, diminuer, etc. C'est ce que j'avais expliqué dans lundi sur le fait de l'utilisation des accords qui, vous le savez, montent jusqu'à la 13e, hein, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 6, 7, 8, etc. Le premier, par exemple, si on prenait un Do, le troisième, ce serait le Mi, le cinquième, le Sol, le septième, le Si bémol, et l'octave, le Do au-dessus. Et donc après, tous ces musiciens vont utiliser toutes les notes au-delà de l'octave pour donner une coloration très très particulière. Je vais pas m'étendre plus là-dessus, mais c'est vraiment quelque chose qui va caractériser évidemment cette musique. Et dans le jazz, évidemment, on va reprendre tout ça avec grand intérêt, peut-être de manière soit intuitive, soit raisonnée. Mais beaucoup de musiciens de jazz ont fait des études de piano classique, donc de musique classique, de piano évidemment, mais de musique classique, et donc évidemment ceci expliquant cela. Voilà, donc je continue un tout petit peu sur la biographie de Debussy. Je vous disais qu'il avait un petit peu du mal à rester à la Villa Médicis à Rome, ça lui pèse un peu, donc il revient à Paris, en France. Il donne sa démission du conservatoire là-bas, et il s'installe dans le quartier Saint-Lazare avec Gabriel Dupont, qu'il aime appeler Gabi aux yeux verts. Alors là, évidemment, je n'aurai pas le temps d'aller beaucoup plus loin, mais on fera une deuxième partie, j'allais dire, Debussy et les femmes, parce que là, c'est quand même pas forcément... voilà. Alors, il dit c'est une fille d'un tailleur de Lisieux. Ils vont vivre ensemble pendant près de 10 ans, rue de Londres, 42. Et en fait, Debussy choisit la vie de bohème de 84 à 92. Mais pendant ce temps-là, en 91, alors qu'il a une liaison avec Gabi, il fait part à Robert Godet, un ami à lui, qu'il souffre parce que cette souffrance a été provoquée par une rupture. Alors on ne sait pas tellement ce qui s'est passé de cette rupture. Certains ont avancé le nom de Camille Claudel, qu'il aurait eu pendant ce temps-là une aventure avec Camille Claudel, mais en fait, personne n'est foutu de savoir vraiment qui était cette maîtresse. Mais il écrit je l'aimais vraiment bien, et avec d'autant plus d'ardeur, triste que je sentais par des signes évidents que jamais elle ne ferait certains pas qui engagent toute une âme, et qu'elle se gardait inviolable à des enquêtes sur la solidité de son cœur. Voilà, en 87, Debussy fréquente les mardis de Mallarmé. Alors, vous savez que vous souvenez, la dernière émission, j'avais cité Mallarmé, puisque Ravel avait utilisé des poèmes de Mallarmé pour composer de la musique. Et tout ça, ça se passe dans le salon de la famille Léopold Stevens. En 88, il se rend à Bayreuth, où il assiste aux opéras de Richard Wagner, les maîtres chanteurs de Nuremberg, Tristan Isolde, Parsifal. Et alors, c'est lui, ça lui provoque un sentiment mitigé et qui vont quand même le marquer. Mais bon, globalement, il n'aime pas trop tout ça, ça l'ennuie un peu. Mais c'est à l'exposition universelle de 1889 et sa découverte de rythme et d'association de sonorités exotiques, entre guillemets, et plus spécialement du gamelan javanais, qui vont lui faire une forte impression et qui vont l'influencer sur ses compositions à venir, gamme, couleur, sonore, rupture rythmique, etc. etc. D'une certaine manière, on dit, mais je veux bien croire, que ça préfigure le jazz. Alors ça préfigure pas, puisque le jazz est né à peu près en même temps que Debussy. Enfin, je veux dire, les formes modernes du jazz avec Jelly Roll Morton et Scott Joplin sont nées un petit peu en même temps. Alors est-ce qu'il y a une sorte de transmission de pensée entre les deux, je ne sais pas, mais en tout cas oui, c'est des choses qui sont visiblement dans l'air, hein, entre les États-Unis. Alors Il va composer en 90 la suite Bergamasque, et ensuite il va beaucoup, beaucoup composer. Alors, justement, à ce propos, il va en fait laisser 227 œuvres, dont certaines inachevées, même certaines ont été finies de composer par récemment, là, dans les années fin 90, par des musiciens. Donc il a composé des petites suites pour piano et quatre mains, des marches des arabesques, enfin, de 1888 jusqu'à 1911, il va composer. Alors évidemment, ses plus connus sont Péléas et Mélisande, hein, sur un livret de Maeterlinck, ça je vous raconterai l'histoire quand on le passera, La chute de la maison Hutcher, Diable dans le beffroi, d'après Edgar Poe, traduit par Baudelaire, quand même, très très beau linge. Là, La mer, évidemment, qui est très connue, et Prélude à l'après-midi d'un faune, qui là marque vraiment la rupture, hein. Il l'a composé en 92 et 94, et qui va vraiment être la rupture par rapport au classicisme. Donc, on va écouter les deux mélodies, les deux derniers thèmes, comme je vous l'ai dit, de ce livre 2. Je ne sais pas si nous aurons le temps d'écouter une partie de livre 1, mais j'ai autre chose à vous proposer, très très connu évidemment, à la fin de cette émission. Thank you. Radio Libertaire, GMC+, donc nous allons nous quitter. Je n'aurai pas le temps de vous passer le fameux Cakewalk Children Corner. Ce sera pour une autre fois. J'ai des très belles interprétations. J'espère que cette émission vous aura passionné, que la vie de Debussy, que nous n'avons pas fini d'évoquer, continuera dans un mois avec d'autres œuvres et nous passerons aux œuvres orchestrales. Voilà. Eh bien, rendez-vous dans un mois, comme je viens de le dire, Fraternity Swing, et puis rendez-vous la semaine prochaine pour la suite de Jazz Lib avec une pléthore de nouveautés.
Le parfum s'élève et retombe sur la terre ferme dans l'angle mort de la pierre. Et soudain, tout disparaît dans un flamboiement rouge qui embrase le ciel. Le parfum s'élève et retombe sur la terre ferme dans l'angle mort de la pierre. Tout le monde est sain et sauf. Le bien a enfin triomphé.
Salut à tous, c'est Epsilonia Electron Libre qui revient, ça faisait longtemps, sur Radio Libertaire. Et ce soir, eh bien, Electron Libre invite le compositeur mexicain, l'artiste sonore Manuel Rocha Iturbide, et qui va nous parler bien sûr de sa musique, mais pas seulement, il va nous parler aussi de la musique d'autres compositeurs ou compositrices du Mexique. On se retrouve tout de suite et on commence avec une première pièce. Thank you.